Il est où le bonheur? Il est où? Ah, alors cette semaine, on a sillonné les rues, les différentes rues du quartier pour poser la question aux gens. Il est où le bonheur? Il est où? Et on a eu toutes sortes de réponses. Pratiquement pas de réponses. Moi, j'ai pas eu de réponse positive. Mais certains nous disaient, ben le bonheur, il est parti. D'autres me disaient, ben le bonheur, il est très loin. Une dame qui avait été mariée 3 fois en l'espace de 10 ans me disait, ben le bonheur, pour moi, il est parti. Et il y a une chanson de Christophe Maé qui a connu beaucoup de succès en 2016, dont le titre Il est où le bonheur, pardon, il est où? Et lorsque vous écoutez les paroles de cette chanson, eh bien, elle reflète bien le désespoir de notre génération. Il dit, j'ai pas tout pris la chanson, parce que toutes les paroles, parce qu'il y en a beaucoup, mais écoutez ce qu'il dit ici, entre autres. Tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous. Pardon. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? C'est une bougie, le bonheur. Ris pas trop fort, d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut, le bonheur. On le veut, ouais. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il ne fait pas de bruit, le bonheur. Non, il ne fait pas de bruit. Le thème de cette soirée, c'est la recherche du bonheur. Et j'aimerais non pas vous partager tout ce que les penseurs de notre époque pensent du bonheur, mais plutôt regarder dans la Bible afin de découvrir les réponses de Dieu à nos questions. Il est écrit dans le psaume 4, versets 7 et 9, ceci. Beaucoup se plaignent, qui nous fera voir le bonheur? Seigneur, fais-nous bon accueil, dit le psalmiste. Mais tu mets dans mon cœur plus de joie que ces gens n'en trouvent à récolter tout leur blé et tout leur vin. Aussitôt couché, je peux m'endormir en paix, car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Vous serez d'accord avec moi pour dire que peu importe où vous allez sur la terre, les gens aspirent à être heureux. Tout ce que nous faisons dans notre vie, nous le faisons dans le but de connaître le bonheur. Si pendant des années, nous apprenons un métier, c'est pour être heureux. Si nous nous marions, c'est pour être heureux. Si nous ajoutons un peu de confort à ce que nous avons déjà, c'est aussi pour être heureux. Les jeunes font du sport pour être heureux. Si certains achètent des billets de loterie, c'est parce qu'ils espèrent gagner le gros lot et être ainsi encore plus heureux. Si d'autres consultent leur horoscope ou vont voir des voyantes pour se faire prédire l'avenir, c'est encore et toujours pour être heureux. C'est sûrement la plus ancienne préoccupation de l'homme et nous la retrouvons déjà dans ce psaume 4, écrit 3 000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, où le psalmiste disait déjà, qui nous ferait voir le bonheur? Donc, le bonheur, c'est pas quelque chose de nouveau. Pourtant, la réponse se trouve dans la question et je vous la donnerai à la fin. Regardons maintenant ce que les gens qui vivent au 21e siècle, ceux qui vivent à notre époque, font pour être heureux, ou plutôt essaient de faire pour être heureux. Certains pensent que le bonheur consiste à vivre une belle et longue vie. Combien de personnes vivent dans l'espoir de prendre leur retraite un jour? Lorsqu'on y pense bien, pardon, est-ce qu'on est plus heureux parce qu'on vit vieux? La Bible nous raconte que lorsque le vieux Jacob se présente devant le pharaon d'Égypte, eh bien, celui-ci est impressionné par la noblesse de ce vieillard. Il lui demande alors, quel âge as-tu? Et Jacob, qui était plus que centenaire, lui a répondu, ma vie a passé vite et j'ai connu des années difficiles. Le danger de vivre plus longtemps, et je pense que tout le monde aspire à vivre très longtemps, c'est que le danger de vivre très vieux aujourd'hui, c'est qu'on risque d'enterrer nos propres enfants et non pas nos enfants toujours nous enterrer. Et c'est une douleur incroyable pour des vieux parents d'enterrer leurs propres enfants, n'est-ce pas? Alors, je ne crois pas que le bonheur soit dans une belle vieillesse. D'autres pensent que dans une société où tout va vite, le bonheur consiste à bouger et à voyager. C'est une façon de voir les choses qui remontent déjà loin, puisque dans le psaume 55-17, David disait déjà à son époque, « Ah, si je pouvais avoir des ailes comme la colombe, je pourrais m'envoler et trouver le repos. » Beaucoup de gens croient qu'ils seraient heureux s'ils pouvaient changer de pays, de vivre sous d'autres climats ou s'ils pouvaient changer de métier. Beaucoup pensent trouver le bonheur dans le matérialisme, dans ce que nous avons appelé au milieu du 20e siècle la société d'abondance. Est-ce que vous savez qu'entre 1939 et aujourd'hui, notre niveau de vie s'est multiplié par 5. Sommes-nous 5 fois plus heureux? Poser la question, c'est y répondre. Quelqu'un dit que le cœur de l'homme est un abîme d'insatisfaction. Il doit donc avoir des raisons à ce manque de bonheur. Pour certains, nous sommes issus d'un accident dans un univers qui lui-même, cet univers, ne devrait même pas exister. Nous sommes une cellule qui, par un heureux hasard, s'est mise à vivre, produisant une série de réactions chimiques dont nous serions, vous et moi, les aboutissements. Voilà ce que nous sommes. Nous ne sommes que ça. Si c'est vrai, un jeune homme ne devrait plus dire à sa fiancée « je t'aime », mais plutôt dire « j'ai une réaction chimique ». Comment voulez-vous être heureux avec ça? C'est ça le vide, l'homme issu d'un accident. Si vous regardez dans la définition, dans le dictionnaire, la définition d'un accident, il est écrit « événement généralement malheureux ». Voilà pourquoi l'homme qui vit un accident est mal dans sa peau. C'est Blaise Pascal qui a dit dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Nous portons tous en nous une dimension d'infini, et tant que Dieu, qui est un être infini, sans limite, ne sera pas venu remplir le vide de notre cœur, jamais nous ne pourrons être heureux. N'ayant pas trouvé de référence dans l'infini, Jean-Paul Sartre, qui fut le maître penseur des Français pendant un certain nombre d'années, en est arrivé à la conclusion que tout dans la vie est absurde. Et beaucoup de gens pensent comme lui. Alors, qui nous fera voir le bonheur? La biologie? La science? La philosophie? Passons à maintenant un autre vide, si vous voulez bien, le vide spirituel ou religieux, si vous préférez. Voyez-vous, l'homme n'est pas heureux parce qu'il porte en lui une culpabilité naturelle et il est un vide du pardon de Dieu. L'homme, on ne peut pas toujours expliquer pourquoi, se sent coupable. Et s'il se sent coupable, c'est parce qu'il l'est. Il porte au plus profond de lui-même un sentiment de culpabilité qui l'empêche d'être pleinement heureux. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul explique que la loi de Dieu, c'est-à-dire les 10 commandements, est écrite non seulement dans la Bible, mais qu'elle est aussi écrite dans le cœur de tout homme. Dieu a mis sa loi dans notre cœur et l'homme ne peut pas rester indifférent face au péché parce qu'il y a quelque chose en lui qui proteste. Alors voyez-vous, chaque fois que dans notre vie nous péchons, c'est-à-dire chaque fois que nous disons ou rapportons de très vilaines choses, qu'on a des mauvaises pensées, que nous entretenons de mauvais sentiments, que nous développons des rancunes envers quelqu'un, tout cela tombe dans notre subconscient et il reste. Apparemment, il ne se passe rien. Apparemment. Mais le cœur de l'homme, c'est-à-dire l'âme, est un peu comme un verre d'eau rempli sur lequel la poussière tombe. Alors la poussière, elle descend sur le verre, elle tombe, elle se dépose d'abord en surface et tout doucement, elle descend au fond et s'y dépose et s'y accumule. L'eau reste claire en surface, mais au fond, cette poussière devient de la boue. Nous gardons un dépôt qui a comme un goût de vase, une odeur de péché. Nous avons le sentiment d'avoir perdu quelque chose et nous passons à côté du vrai but dans lequel nous sommes sur terre. Cela vient de tout ce dont je vous ai parlé, que la Bible appelle le péché, qui est tombé dans le verre de notre subconscient. Et ce verre, il suffit de le secouer un petit peu pour que la boue se mélange à l'eau et que notre âme en soit troublée. Alors, qui nous fera voir le bonheur? La psychiatrie. La psychiatrie est censée nous donner une réponse. Et plus les pays sont riches, plus les gens sont déboussolés et plus les gens vont voir les psychiatres. Le psychiatre, lui, ne dit pas grand-chose. Il vous met à l'aise sur un divan et il vous laisse parler. Puis son truc, c'est de vous essayer de vous déculpabiliser. Mais non, vous n'êtes pas coupable. Il va dire exactement le contraire de ce que la Bible dit. Et il va vous dire que le péché n'existe pas. Le péché, dira-t-il, ce sont des idées de nos grands-mères qui sont dépassées, que nous nous sommes forgées, ou que la religion nous a inculquées pour s'assurer qu'elle existera encore dans 100 ans. Autrement dit, la psychiatre, pour reprendre l'image que j'ai employée, prend le verre d'eau claire, et quant à la boue qui se trouve au fond, eh bien, il sort une bande autocollante, une sorte de sparadrap, il y a de la boue jusqu'ici, et qu'est-ce qu'il fait pour pas que vous voyez la boue? Il met un sparadrap autour, et vous avez l'impression que le verre est propre, que vous avez plus de problèmes dans votre vie. Il colle ça à la hauteur de la vase qui est au fond, puis il vous dit, vous voyez, l'eau est propre, vous pouvez partir l'esprit tranquille. Il a caché la vase, mais cela n'élimine pas, et il faut parfois bien peu de choses pour que la vase remonte à la surface. Il suffit parfois, et ce même après 20 ans, de sentir une sorte de parfum, d'entendre une ancienne mélodie, de revoir un film, et d'un seul coup, on voit une peine d'amour, une mauvaise expérience remonter à la surface, et alors on se souvient. Combien de gens ont pleuré en réentendant « Capri, c'est fini ». 20 ans après, 30 ans après, « Capri, c'est fini ». Vous vous souvenez de cette chanson-là? Hein? C'est pas moi qui l'ai enregistré, vous venez de m'entendre, c'est pas moi qui l'ai enregistré. Mais pourquoi? Parce qu'on pensait qu'on avait oublié cette peine d'amour, elle était terminée. Ces mauvais souvenirs étaient terminés. Mais comme la vase, c'est venu se déposer. Comme la vase dans le verre, c'est venu se déposer au plus profond de nous-mêmes. Et lorsqu'il y a des choses, des souvenirs qu'on entend, ou qu'on rencontre à nouveau, qui remontent, qui nous permettent de revoir ces anciennes choses, eh bien, la vase, elle remonte à la surface. Et finalement, le verre qui semblait être propre, l'eau qui semblait être propre dans le verre, eh bien, est souillée. Et c'est la même chose pour nous. La blessure qu'on pensait qui était disparue, eh bien, on s'aperçoit qu'elle refait surface. Pour reprendre l'image que, pardon, il a caché, vous vous souvenez des frères de Joseph qui l'avaient jeté dans une citerne, et Joseph qui les priait pour ceux qui connaissent un peu la parole, et Joseph qui les suppliait de ne pas les faire mourir. Alors, ils vont le vendre à une caravane de marchands qui passait par là, et la conscience en paix, ils vont oublier ce qu'ils ont fait. Plus de 20 ans vont passer, ils croyaient que leur frère était mort, mais ils ne savaient pas qu'il était devenu le premier personnage d'Égypte après le roi. Et un jour, il y a eu une famine. Il y a eu une famine dans leur pays. Ils ont dû se rendre en Égypte pour pouvoir trouver de la nourriture. Et ils vont se présenter en Égypte et ils vont arriver devant Joseph. Et ils ne reconnaissaient pas Joseph, qui était habillé finalement en égyptien, avec un costume égyptien d'officiel. Mais aussi, après 20 ans, eh bien, ils ne le reconnaissaient pas. Et il va leur demander, Joseph va leur demander leur identité. Ils vont se présenter en disant, nous sommes des gens honnêtes. Quand vous regardez les paroles, c'est vraiment ça. Nous sommes des gens honnêtes. Heureusement qu'ils l'ont dit, sinon personne ne les aurait crus. Des honnêtes gens, des assassins en puissance, hein. Ils ont comploté pour tuer leur frère. Alors, ils ont plein de remords, ils ont changé d'idée. Ils se sont dit, pourquoi le tuer, on ne fera pas d'argent avec, pourquoi pas le vendre, on va quand même avoir un petit montant d'argent. Conscience complètement endormie. La bande autocollante autour du verre de leur conscience devait être très large au point de couvrir tout le verre, frères et sœurs. Nous sommes tous des gens honnêtes, tous, Français, Anglais, Belges, Suisses, nous sommes tous des gens honnêtes, ou à peu près tous, même tous ceux qui sont derrière les barreaux et tous ceux qui ne se sont pas fait prendre, nous sommes tous des gens honnêtes. C'est à partir du moment où les frères de Joseph disent, nous sommes d'honnêtes gens, que les choses ont commencé à mal tourner pour eux. Ils sont là ensemble en se demandant ce qui leur arrive, quand tout à coup l'un des frères dit, je vous l'avais dit à l'époque que ce n'était pas bien, ce que nous avons fait quand notre frère Joseph était dans le trou, et que du fond de sa citerne, il nous suppliait de ne pas le mettre à mort. Après 20 ans, leur belle eau claire se brouille, ça se mélange et le passé refait surface. Dieu, lui, frères et sœurs, chers amis, procède autrement que le psychiatre. Dieu ne cherche pas à nous déculpabiliser. Il ne met pas d'autocollant pour cacher nos péchés. Non, Dieu procède autrement, et toute la Bible le confirme. Il nous fait regarder notre vie en face telle qu'elle est. Même si ce n'est pas beau, surtout si ce n'est pas beau, et il nous fait appeler nos péchés par leur nom. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Afin de nous amener à reconnaître nos péchés et à les confesser comme étant la cause de nos malheurs. Il veut nous amener à faire notre mea culpa, non sur la poitrine des autres, mais sur la nôtre. La différence entre la psychiatrie et Dieu, c'est que la psychiatrie souvent nous traite comme étant des victimes. Et le problème quand on est traité comme étant des victimes, eh bien, c'est jamais notre faute, c'est la faute des hommes. Mais Dieu ne nous traite pas en victime. Dieu veut nous responsabiliser, et c'est pour ça que la parole nous dit, car tous ont péché, et sont privés d'entrer au paradis. Mais Dieu, si Dieu déteste le péché, Dieu aime le pécheur, c'est ça la bonne nouvelle. Dieu nous aime. Malgré qu'on désobéit à sa loi, Dieu nous aime, et Dieu cherche un moyen pour nous sauver, pour faire en sorte que le vase, les péchés qui représentent la vase dans le verre, les péchés qui représentent, qui se trouvent dans notre cœur, puissent être effacés. Et c'est ça le miracle de Dieu. C'est ça le miracle de la croix. Et je vais prendre 5 minutes pour en parler tantôt. C'est ça le miracle de la croix. Dieu peut faire en sorte de nous débarrasser de toute la vase qui traîne dans notre vie depuis qu'on est venu au monde. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est l'Évangile. Quand le fils prodigue est revenu vers son père, il n'a pas dit, tu sais, papa, on s'est pas compris. Il n'a pas dit, c'est les copains qui m'ont entraîné. Il n'a pas cherché d'excuses. Il a dit, « Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il dit, « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et c'est quand nous en sommes rendus là, à les reconnaître et à les appeler par leur nom, c'est à ce moment-là que Dieu prend nos péchés et qu'il les dépose sur Jésus par amour pour nous, qui a accepté de prendre sur lui la punition que nous méritions pour nos péchés. Frères et sœurs, Dieu, non seulement Dieu ne veut pas nous traiter en victime, mais Dieu veut nous responsabiliser, et la parole, c'est ça qui est extraordinaire, la parole, elle veut aussi non seulement nous montrer qu'on désobéit à Dieu quand on pêche, mais qu'il y a des conséquences aussi quand on pêche. Et Dieu veut nous éviter de subir toutes ces conséquences-là. Et ce qui est extraordinaire, le beau message de la croix, c'est que lui qui était sans péché a accepté de subir les conséquences de notre péché à votre place et à ma place. C'est pas un message qui est populaire aujourd'hui, mais c'est le seul message où l'homme peut trouver le véritable bonheur. Le véritable bonheur, parce que le bonheur, il se trouve pas parmi les hommes. Il vient d'en haut, le bonheur, et c'est Dieu qui vient déposer une paix et une joie qui dépasse tout ce que l'homme peut entendre dans le cœur de l'être humain. Et quand nous croyons à cela, pardon, et c'est quand nous sommes là à les reconnaître et à les appeler par leur nom, comme je l'ai dit, c'est à ce moment-là que Dieu prend nos péchés et qu'il les dépose sur Jésus par amour pour nous, qui a accepté de prendre sur lui la punition que nous méritions pour nos péchés. Et quand nous croyons cela, en réponse à notre repentance et à notre foi seulement, Dieu nous pardonne nos péchés. Mais ce qui est extraordinaire, Dieu non seulement nous pardonne, mais Dieu les oublie nos péchés. C'est une faculté qui n'appartient qu'à Dieu, qui le dit, il le redit encore notamment dans une épître, l'épître aux Hébreux. « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Moi, je me souviens de ma vie passée. Nous nous souvenons de ce que nous avons fait, même si nous sommes pardonnés. Mais Dieu dit, j'ai passé l'éponge sur tes révoltes, sur tes fautes, les voilà effacées, disparues comme un nuage qui passe à travers la bouche d'Ésaïe, au chapitre 44, verset 22. » J'aimerais expliquer cela d'une autre façon. Nous connaissons tous l'usage. C'est une vieille illustration, mais je pense qu'on a tous connu ça. En fait, je pense, oui. Nous connaissons tous l'usage de l'enregistreur ou d'un magnétoscope. Voyez-vous, notre vie, c'est comme une cassette qui enregistre. L'enregistreur, c'est une cassette qui enregistre notre vie à mesure qu'elle se déroule. Et toute notre vie est quelque sorte enregistrée sur la bande magnétique du tribunal de Dieu. C'est cette pensée-là qui nous rend malheureux parce que nous savons qu'au grand jour du règlement final, où nous aurons à rendre des comptes, Dieu va mettre la cassette vidéo de notre vie dans son projecteur et notre vie va passer sur l'écran géant de Dieu en mouvement, en couleur, en trois dimensions et il va nous projeter tout ce qu'on a fait dans notre vie. Maintenant, que nous y croyons ou que nous n'y croyons pas, ça ne changera rien à l'événement. Un jour, chacun devra regarder sa vie en face car Dieu dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Et voir ma vie en face devant tout le monde et devant Dieu, c'est la dernière chose au monde que je voudrais. Heureusement, je ne le reverrai jamais, cela n'arrivera pas, et je vais vous dire pourquoi. Savez-vous comment on efface un enregistrement? C'est bien simple, il suffit de réenregistrer par-dessus. Et le premier enregistrement va disparaître. C'est ce que Dieu a fait quand quelqu'un se tourne vers Jésus-Christ. Par-dessus notre vie ratée, il réenregistre la vie de son Fils qui n'a jamais péché. Le jour où Dieu va faire passer la bande de ma vie, ce qui se passera, ce ne sera pas ma vie qu'on va voir sur un écran, ce sera la vie de Jésus-Christ, parce que c'est en lui que j'ai remis ma vie. Ça, c'est une autre bonne nouvelle. Et couvert par sa justice, je ne viendrai pas en jugement, car c'est Jésus lui-même qui le dit. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et regardez bien la suite. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Il n'y a pas de problème quand il va comparaître devant Dieu, c'est pas pour te faire dire coupable, non. Parce qu'il a pris l'accusation. Déjà, Jésus a pris, il a accepté que Jésus prenne la culpabilité de ses péchés sur lui. Alors Dieu le voit à travers Jésus-Christ, et à ce moment-là, Dieu dit, viens, entre dans mon paradis. Et on aspire tous à entrer au paradis. Mais les gens rentrent par la mauvaise porte. Il y en a qui consomment de la drogue pour échapper à l'enfer qu'on vit dans le monde en espérant vivre le paradis. Et finalement, quand on lit tout ce qui se passe, il est bien écrit qu'on dit que la drogue, c'est un enfer. Hein? C'est un enfer. Il y en a qui essaient d'oublier à travers la boisson, à travers l'alcool. Ils cherchent le paradis. Pourquoi? Parce qu'ils sont en manque de bonheur. Et c'est ce que dit aussi l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. « Lorsque mes péchés sont été déposés sur Jésus-Christ, Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. C'est une bonne nouvelle. Nous voyons et espérons trouver le bonheur dans des choses telles que le matérialisme, l'abondance des biens, les plaisirs du monde, le changement ou la religion. Mais voilà, ce n'est pas en quoi, mais plutôt en qui. C'est quelqu'un. C'est une personne. Le bonheur, c'est quelqu'un. Et qui est ce quelqu'un? C'est ainsi que David parle du bonheur de l'homme que Dieu considère comme juste sans tenir compte de ses œuvres. Heureux ceux dont Dieu a pardonné les fautes et dont il a effacé les péchés. Heureux, heureux. On cherche le bonheur. On cherche le bonheur. Heureux ceux dont Dieu a pardonné les fautes et dont il a effacé les péchés. Oui. Moi, je suis pasteur, je rencontre des gens qui sont en fin de vie, je rencontre des gens à l'hôpital. Et la plus grande angoisse, quand les gens sont pas gelés sur la morphine, hein, quand ils sont pas surdosés de morphine, c'est la peur, ils ne savent pas où ils s'en vont. Et la peur aussi, la culpabilité dont les gens se sentent. Vous savez, pasteur, j'ai pas fait vraiment une bonne vie, hein, je ne sais pas où je vais aller. Hein. Et cette notion de Dieu, hein, la Bible a dit que Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Cette notion de Dieu, cette notion de l'éternité, elle refait surface comme quand les gens sont pour quitter cette terre. Et ils nous disent, je sais pas où je m'en vais, je sais pas si Dieu va m'accepter. Et heureusement qu'on peut prendre un temps ensemble, heureusement que dans sa lucidité, on peut lui expliquer l'Évangile et lui dire, écoute, tant et aussi longtemps que tu es sur la terre, tant aussi longtemps que tu respires, il y a un espoir pour toi. Il y a un espoir pour toi. Tu peux mourir avec tes péchés et tu vas devoir un jour ou l'autre comparaître devant le tribunal de Dieu. Mais tu peux tout de suite confesser tes péchés, remettre ça à Jésus-Christ, qui lui, en retour, va te donner sa justice. Et à ce moment-là, écoute, tu vas partir en paix sur cette terre. Et il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'assurance de pouvoir entrer au ciel n'est pas basée sur ce que nous faisons de bien, mais sur la bonté de Dieu. Si de notre bouche nous affirmons que Jésus-Christ est le Seigneur, et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, nous serons sauvés. C'est-à-dire que nous aurons la certitude que tous nos péchés sont effacés et que nous passerons l'éternité au paradis. Chers amis, ce soir, le thème, c'est pas le paradis, c'est une question de où se trouve le bonheur, où il est le bonheur. Mais quand on lit les Écritures, quand on lit la parole de Dieu et qu'on voit ce que Dieu nous préserve pour l'éternité, c'est extraordinaire, le paradis. C'est pas quelque chose, c'est pas un fantasme, c'est pas le fruit de notre imagination. Jésus-Christ sur la croix, avec les deux serviteurs, avec les deux malfaiteurs, qui un était à sa gauche, l'autre était à sa droite, un continuait à le maudire, un continuait à crier après lui, tandis que l'autre a réalisé qu'il était en train de mourir dans ses péchés. Il a simplement dit, il a confessé de la bouche exactement ce que Paul dit. Et il a cru dans son cœur, il a simplement dit à Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Souviens-toi de moi quand tu viendras. » Et il a dit à son copain, « Écoute, veux-tu te taire, nous, ce qu'on subit, la punition qu'on subit, c'est qu'on la mérite. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. On subit pas, on n'a pas à subir cette condamnation. Et lui, il n'a pas à subir cette punition. Mais nous, on reçoit exactement ce que nous méritons. Ce pardon que Dieu nous offre en Jésus est un cadeau que Dieu nous fait. Et comme tous les cadeaux, comme tous les dons, le pardon des péchés nous est offert gratuitement et nous garantit la vie éternelle. Car c'est par la grâce de Dieu que nous sommes pardonnés de nos péchés et acquittés du jugement à venir, et ce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, nous dit la parole, c'est un don de Dieu. Ce don n'est pas le résultat de nos efforts, afin que personne ne puisse se vanter d'avoir pu mériter ou d'avoir réussi à entrer au ciel par ses propres forces. Chers amis, les gens se font une image de Dieu, mais je tiens simplement à rappeler aux habitués et aux non-habitués que Dieu n'était pas obligé. Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit pour qu'on reçoive le pardon de nos péchés. Si Dieu, dans sa sainteté, eh bien, nous avait vus uniquement dans sa sainteté, on serait tous condamnés. Et on sera tous condamnables parce que tous on a péché. Mais Dieu nous aime. Si Dieu déteste le péché, je le répète encore, Dieu nous aime. Et Dieu a trouvé un moyen pour nous sauver. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pas nous qui avons choisi de passer l'éternité avec Dieu, c'est Dieu qui a choisi que l'homme passe l'éternité avec lui. Et ça, c'est extraordinaire. Quand la Bible nous dit que sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux que Dieu va créer, on va régner avec lui. On ne sera pas des robots, on ne sera pas des marionnettes. On va régner avec lui, on va recevoir un nouveau corps qui ne vieillira plus. La maladie aura été détruite, la mort aura été détruite, il n'y aura plus de guerre. C'est ça le paradis, et c'est quelque chose de magnifique. C'est ce que le premier homme et la première femme ont perdu. Dieu va recréer ces choses-là. C'est pas un fantasme, c'est pas un rêve. Chers amis, le message de l'Évangile, c'est qu'il n'y a aucune bonne action que nous pouvons faire qui puisse effacer un seul péché. Si nous voulons avoir l'assurance d'entrer au ciel, nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs et que Dieu a offert Jésus à sacrifice, afin que par sa mort, il obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. C'est pas automatique, on n'a pas de foi à faire. On n'a pas de foi à faire, on doit se reconnaître comme étant des pécheurs, c'est-à-dire qu'on doit simplement désobéir à la loi de Dieu, qu'on n'est pas parfait. Et que si Dieu nous regarde en fonction de ce qu'on a fait, on est tous coupables. Mais si Dieu nous voit à travers ce que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, eh bien voilà, nos péchés sont effacés. Pardon. Cela veut dire que le bonheur n'est pas de ce que nous allons faire pour Dieu, mais dans ce qu'il est et dans ce qu'il a fait pour nous. Dieu nous a montré jusqu'à quel point il nous aime, dit l'apôtre Paul. Jésus est mort pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Et là, on voit encore la dimension de l'amour de Dieu. Dieu n'a pas attendu qu'on devienne ses amis. Dieu n'a pas attendu qu'on arrête de pécher pour sacrifier ce qu'il y avait de plus cher. Il l'a envoyé alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions encore ennemis de Dieu, alors que nous nous moquions de lui, alors que nous vivions comme bon nous semblait. Dieu a envoyé son Fils. L'assurance de pouvoir entrer au ciel n'est pas basée sur ce que nous faisons de bien, mais sur la bonté de Dieu. Ce pardon que Dieu nous offre, je le répète, est un cadeau que Dieu nous fait. Et comme tous les cadeaux, comme tous les dons, le pardon de Dieu nous est offert gratuitement et nous garantit la vie éternelle. Frères et sœurs, comme ce malfaiteur sur la croix, nous devons nous repentir de nos péchés et placer notre confiance en Jésus-Christ pour recevoir le pardon de nos péchés. Seul Jésus est qualifié pour que nous méritions d'entrer au paradis. En donnant sa vie sur la croix pour nos péchés, il a pris lui-même sur lui la punition, la condamnation que nous méritions pour nos péchés. Et parce que nous croyons dans ce sacrifice, Dieu nous rend juste devant lui. Et ça, c'est le vrai bonheur, de ne plus avoir ce sentiment de culpabilité, de savoir que peu importe le nombre de jours qui me reste à vivre, le nombre d'années qui me reste à vivre, j'ai la certitude de savoir où je m'en vais. Ça, c'est important. Il y a des gens qui dépriment parce qu'ils savent pas où ils s'en vont. J'ai parlé avec des gens cette semaine. Il y a des gens qui se comparent à des animaux tellement qu'ils ont l'impression qu'il n'y a rien après la mort. Il y a des gens qui dépriment pour tout et pour rien quand ils regardent ce qui se passe autour de nous. Le monde, il n'y a rien d'encourageant. Mais ce qui est encourageant dans la parole de Dieu nous dit, écoute, le bonheur, la joie, la paix qui vient d'en haut, pas celle que l'homme t'offre et qui ne dure pas, mais la paix, la joie qui vient d'en haut, le bonheur, le véritable bonheur, tu peux l'avoir maintenant et pour l'éternité. C'est une bonne nouvelle. Oui. Alors, peu importe ce qui arrive autour de nous, on sait sur qui on s'est appuyé, on sait en qui on fait confiance. Et ce Dieu n'est pas un Dieu menteur. C'est un Dieu qui nous dit la vérité. Et lorsque ce que Dieu promet, eh bien, Dieu l'accomplit. C'est ce que la parole nous dit. En terminant, si vous voulez recevoir le pardon de vos péchés et être sauvé du jugement à venir, je vous invite à prononcer cette prière avec moi dans votre cœur. Je vous invite simplement à courber la tête et à fermer les yeux. On va terminer ce message. Ce message avec cette prière, cette invitation. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait cette prière, si vous voulez la faire, je ne vous mets pas de pression, c'est entre vous et Dieu. Mais Dieu vous offre l'opportunité ce soir de recevoir le pardon de vos péchés, de recevoir la vie éternelle et d'avoir votre nom inscrit pour entrer au paradis de Dieu. Voici la prière que je vous invite à faire pendant que les yeux sont fermés, que la tête est penchée. Seigneur Dieu, je sais que tu veux me sauver parce que j'ai péché contre toi. J'ai vécu jusqu'à aujourd'hui par moi-même et je veux abandonner toute ambition personnelle pour faire maintenant ta volonté. Merci d'avoir payé sur la croix le prix exigé par la loi pour que mes péchés soient effacés en mourant pour moi. Je crois que tu es ressuscité des morts le troisième jour et que quiconque croit en toi est déjà passé de la mort à la vie. Seigneur, je te remets ma vie. Viens dans mon cœur, pardonne mon péché et sauve-moi, Jésus. Merci de m'avoir sauvé et commence à faire de moi la personne que tu veux que je sois. Je te donne entièrement mon cœur, Jésus, parce que je te fais confiance et je sais que je peux compter sur toi. Amen. Pendant que les têtes sont penchées, que les yeux sont fermés, si quelqu'un dans cette salle qui a fait cette prière pour la première fois ce soir, je vous invite simplement à lever la main pour me signaler que vous avez fait ce pas de foi. Simplement à lever la main. Seigneur notre Dieu, je tiens à te remercier, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, Seigneur, qui est esprit et vie. Ta parole qui nous permet, Seigneur, d'avoir une espérance vivante. D'avoir une espérance éternelle, celle de savoir de passer l'éternité dans ta présence, avec toutes les promesses que tu as écrites dans ta parole. Seigneur, merci pour ces gens qui se sont déplacés. Merci pour ceux qui, pour la première fois, ont entendu l'Évangile. Seigneur, que tu puisses continuer par ton esprit à agir dans leur cœur, afin qu'ils puissent un jour avoir cette conviction que le bonheur, il se trouve en toi, par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que je te prie. Amen.